Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le dimanche 28 septembre 2025, vous écoutez la radio SBS, le programme en français. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble et on commence avec le personnage qui a marqué la semaine. Elle était une légende du cinéma italien, elle s'appelait Claudia Cardinale, elle était la muse des plus grands réalisateurs et l'incarnation d'une indomptable beauté. Claudia Cardinale est décédée en France à l'âge de 87 ans. François Vantôme, bonjour. Claudia Cardinale avait un lien très fort avec la France, expliquez-nous.
C'est en effet incontestable, italienne, naturalisée française, Claudia Cardinale est décédée auprès de ses enfants à Nemours, en région parisienne où elle habitait. Née à La Goulette, près de Tunis, le 15 avril 1938, d'une Française et d'un Sicilien, Claude Joséphine Rose Cardinal parle français, arabe et sicilien. À 17 ans, un concours de beauté qu'elle remporte sans même être candidate bouleverse sa vie. La plus belle Italienne de Tunis gagne un voyage à la Mostra de Venise où elle faisait sensation. Le monde du cinéma se l'arrache. C'est dans le cinéma italien qu'elle débute. Les réalisateurs, n'aimant pas sa voix rauque et son accent français, la feront doubler jusqu'à Fellini et son 8,5 en 1963.
Il faut dire, François, qu'elle était l'une des trois actrices les plus emblématiques du cinéma italien.
Elle a en effet subjugué Visconti et Fellini, envoûté Delon, Belmondo et Mastroianni. Elle est l'incarnation de la beauté italienne. Claudia Cardinale a illuminé de sa présence plus de 150 films. Je ne voulais pas faire de cinéma, c'est ma sœur qui voulait. Mais ils ont tellement insisté que mon père a lâché, confiait-elle. Sous contrat avec le producteur Franco Cristaldi, elle devient sa créature. Sur le tournage de la comédie culte du Pigeon, en 1958, de Munchelli, elle découvre qu'elle est enceinte. Elle confiera des années plus tard qu'elle a été violée. Son producteur lui impose de cacher sa grossesse. Après un accouchement dans le secret à Londres, il la convainc de confier l'enfant à ses parents. Patrick sera officiellement son jeune frère jusqu'à ce qu'elle révèle la vérité 7 ans plus tard. Elle tourne à 22 ans dans Rocco et ses frères en 1960 de Luchino Visconti, qui lui donnera quelques années plus tard l'un des plus grands rôles, dans Le Guépard, aux côtés d'Alain Delon et Burt Lancaster en 1963. À 23 ans, elle fait une entrée fracassante à Cannes avec La fille à la valise de Zurlini et Le mauvais chemin de Bolognini. La même année, sort un autre chef-d'œuvre du cinéma italien, 8,5 de Fellini, dans lequel elle incarne la muse du personnage principal réalisateur. Réclamée par Hollywood, où elle refuse de s'installer, elle séduit les Américains dans La Panthère rose, puis Le plus grand cirque du monde de Henry Hathaway, où elle joue la fille de Rita Hayworth. Après Sandra de Visconti, où elle porte la robe de mariée de la mère du réalisateur, et Les Professionnels avec Burt Lancaster, elle est l'héroïne d'Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone en 1968, seule femme entre Charles Bronson et Henry Fonda. Claudia Cardinale fut souvent comparée à Brigitte Bardot. Cécé, la brune, et Bébé, la blonde, tourneront un film ensemble, Les Pétroleuses, en 1971. Le Napolitain Pasquale Squitieri, son compagnon pendant presque 30 ans, son seul amour et le père de sa fille Claudia, lui fait tourner 10 films de 1974 à 2011.
Et Claudia Cardinale, elle aura aussi des reconnaissances assez tardives des plus grands festivals.
En 2017, le Festival de Cannes avait choisi une photo de sa jeunesse pour son affiche, rendant hommage à une comédienne aventurière, femme indépendante, citoyenne engagée. Aux jeunes comédiennes, l'actrice qui a toujours refusé de se dénuder recommandait de ne pas tout accepter pour un rôle qui peut vous abîmer ou vous donner l'impression de vous vendre. Elle sera récompensée d'un Lion d'or à Venise en 1993 et d'un Ours d'or à Berlin en 2002. Avec sa fille Claudia, elle avait créé la Fondazione Claudia Cardinale, lieu d'accueil et de promotion des jeunes artistes situés à Nemours.
Alors, depuis son décès cette semaine, de nombreux témoignages poignants ont été rendus, François.
En effet, le ministre italien de la Culture, Alessandro Giulia, a quant à lui rendu hommage à l'une des plus grandes actrices italiennes de tous les temps. Incarnation d'une grâce toute italienne et d'une beauté particulière. Claudia Cardinale, décédée à l'âge de 87 ans, était une star italienne et mondiale que nous, Français, porterons toujours dans notre corps, dans l'éternité du cinéma. Claudia Cardinale incarnait une liberté, un regard, un talent qui ajouta tant aux œuvres des plus grands, de Rome à Hollywood et Paris qu'elle choisit comme patrie, a écrit le président français Emmanuel Macron.
Merci beaucoup François Vantôme.
Les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire qu'il m'embelle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Sa voix reconnaissable parmi mille, elle fait partie de notre sélection musicale de ce mois-ci. C'est Zao Tsagassan avec sa chanson « Les Dormantes ». On vous propose une interview à présent, celle avec Xavier Heymann au micro de François Vantôme. Xavier Heymann, à travers des événements de réseautage mensuels et informels, offre un espace accueillant pour se rencontrer, collaborer, établir des relations significatives. Interview.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
On retrouve à présent Xavier Heymann, fondateur des European Aussie Drinks. Bonjour Xavier.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors Xavier, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Vous êtes français et vivez dans les Northern Beaches de Sydney, il me semble.
Exactement. Je suis arrivé en Australie il y a une quinzaine d'années. À l'époque, je ne parlais pas du tout anglais. Je suis arrivé avec un working holiday visa pour passer quelques mois. Et de fil en aiguille, je suis resté en Australie. Je me suis marié en Australie. J'ai eu des enfants en Australie. Et je suis toujours en Australie 15 ans après.
Alors Xavier, vous êtes un des fondateurs des European Aussie Drinks. Mais il me semble que vous n'avez pas une formation dans l'événementiel. Hein.
Ah non, pas du tout. À la base, j'ai étudié le droit. Je suis avocat qualifié en France et en Australie et j'ai travaillé dans le conseil en Australie pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je suis toujours dans le conseil en business development, plutôt du côté du learning and development.
Alors comment est-ce que vous avez eu cette idée? Pourquoi est-ce que vous vous êtes impliqué dans l'organisation d'un événement? Ce n'est pas votre activité principale, on l'a compris. C'est lié au network que vous procurez?
Alors, en fait, l'idée à la base, bon, déjà, c'est aussi grâce à mon amie maintenant, Karine Pham. On s'est rencontrés quand je suis arrivé en Australie. Karine Pham est un des piliers de la communauté française et c'était une personne inévitable à mon arrivée. On s'est rencontrés à un événement de French Business School Alumni, donc une autre organisation de networking. Et ensemble, on a eu cette idée de lancer un événement de networking. Donc au début, ça s'appelait French Aussie Drinks. L'idée, c'était tout simplement de rencontrer des nouvelles personnes pour nous, évidemment, premièrement, puis aussi de faire profiter cela à d'autres personnes. Donc on a commencé petit, on se réunissait une fois par mois. Au début, je crois qu'on devait être une vingtaine de personnes. Puis de fil en aiguille, notre groupe French Aussie Drinks a grandi, si bien qu'on est passé d'une venue à un autre endroit. Et à un moment donné, French Aussie Drinks est devenu European Aussie Drinks.
Donc c'était un événement incontournable. C'est devenu l'European Aussie Drinks. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous avez développé ça sur l'European Aussie Drinks ?
Et en fait, notre groupe de French Aussie Drinks rassemblait pas forcément que des Français, pas forcément que des Australiens, beaucoup d'Européens. Et là encore, c'est venu avec une autre rencontre avec un Allemand, Bodoman, qui nous a dit « mais on devrait faire une spéciale French German Aussie Drinks ». Donc on a fait ça, c'était sous la bénédiction à l'époque du consul français et du consul allemand. Et en fait, ça a été un énorme succès. Je crois qu'on a rassemblé 300 personnes environ. Et à la suite de ça, on s'est dit, on va continuer sur la lancée. On va rebrander, on va renommer l'événement en European Aussie Drinks.
Alors, ce qui est assez remarquable, c'est qu'il me semble que vous arrivez à joindre, à tout le monde vous soutient. Donc, tous les consulats européens, les ambassades sont derrière vous et encouragent leurs membres à vous rejoindre.
Alors, exactement. En fait, c'est ce qu'on avait commencé déjà avant Covid, puisqu'on a fait une petite pause pendant Covid, comme tout le monde évidemment. Avant Covid, on avait justement, quand on avait lancé ces European Aussie Drinks, on voulait mettre un pays à l'honneur chaque mois. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait l'ambassade ou le consulat du pays en question qui nous soutenait. Le consul en personne venait à chaque fois. La chambre de commerce du pays également était un partenaire clé, puisque c'est un événement gratuit en fait qui rassemble tout le monde. On ne demande rien vraiment. L'idée, c'est de venir comme vous êtes. On est plutôt aussi casual. Alors évidemment, c'est du professionnel networking, mais voilà, c'est ouvert à tous, il n'y a pas de frais d'entrée. Souvent, on essaie de s'arranger d'avoir un partenaire pour offrir une boisson à l'entrée. Et c'est vrai que ça rassemblait, ça fédérait la communauté européenne et chaque pays y trouvait son compte et trouvait un avantage à étendre son network, à soutenir cet événement et aussi à faire connaître un peu son pays, sa chambre de commerce, etc.
Alors, on l'a compris, c'est grâce aux partenaires. Il n'y a pas de financement, finalement, pour ce genre d'événement.
Non, il n'y a pas de financement. On n'est que des bénévoles. Karine et moi, on fait ça en plus de notre activité. Donc, on fait ça quand on a le temps. On contacte des gens, par exemple, le soir. On envoie des emails le matin très tôt. Mais effectivement, on fait ça complètement bénévolement parce qu'on aime. On aime rencontrer des nouvelles personnes et aussi on aime créer un espace où les personnes peuvent se rencontrer.
Alors, ce qui est intéressant aussi, Xavier, c'est que tout le monde peut venir assister à cet événement. On ne doit pas appartenir forcément à la nationalité dont le pays est mis en évidence.
Non, pas du tout. C'est ouvert à tous. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et c'est vrai que depuis notre relaunch après Covid, alors il a fallu un petit peu de temps parce que Karine et moi, on était un peu passés à autre chose, je vous avouerai. Et c'est vrai que c'est un peu sous la pression. Quand est-ce que ça reprend ? Quand est-ce que ça reprend ? J'ai envie de vous aider. Alors ok, on a repris l'année dernière, donc dans un autre endroit parce que le Sofitel Wentworth était fermé à l'époque. On a repris, là aussi, on avait un excellent contact qui était Sophia Demetriades, qui avait lancé il y a quelques années les Euromix et qui est aussi très active dans la chambre de commerce norvégienne, qui nous a aidé à relancer l'événement. Donc tous les quatre avec Bodo, on a recommencé en 2024 et chaque mois on s'est amusé puisque vraiment c'est un plaisir. On fait une spéciale Italie, on fait une spéciale Espagne, on a fait une spéciale France il y a quelques mois pour notre déménagement à notre nouvelle venue au Sofitel. Voilà, à chaque fois ça rassemble des dizaines, plusieurs dizaines, plus que 100 personnes à chaque fois et c'est merveilleux.
Donc Xavier, on l'a compris, il y a beaucoup d'amusement, du network, du business. Tous les pays ont des cultures différentes aussi, des sensibilités différentes. Donc j'imagine qu'à chaque fois, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous tient à cœur ?
Ouais, je crois que les anecdotes, ça vient des gens, c'est ce qu'on me raconte. C'est vrai que oui, on est orienté business. C'est vrai que chaque pays essaye de trouver un petit avantage, avoir de la visibilité, avoir plus de membres pour sa chambre de commerce, etc. Mais moi, ce que je retiens le plus, ou ce qui me touche le plus, et ce pourquoi aussi je continue, hein, je continue ça pour le fun, moi, c'est les anecdotes des gens, c'est les rencontres qui font, pas forcément que professionnelles. Et moi, ce que j'adore, c'est les couples qui se créent, par exemple, grâce à notre événement. Ça, c'est formidable. Donc voilà, je crois que c'est le meilleur que j'aime à European Wizard Wing, c'est que vous pouvez rencontrer n'importe qui, tout le monde est là, vous pouvez rencontrer professionnellement, personnellement, des amis et peut-être l'amour.
C'est très beau ça. Donc on l'a vu, ça évolue très bien. Est-ce qu'il y a encore des surprises? Où allez-vous vous arrêter? Est-ce que vous allez faire les Mondial Drinks? Quelle est votre ambition dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années?
Non, vraiment, ça prend beaucoup de temps quand même, hein, cette petite affaire. On fait ça bénévolement. Je me rappelle qu'avant Covid, on avait essayé de lancer ça aussi à Melbourne. On l'avait fait quelques mois, mais n'étant pas sur place, c'était un peu difficile. S'il y a des gens sur Melbourne, par exemple, qui voudraient reprendre le flambeau, pourquoi pas, contactez-nous. Mais honnêtement, on se concentre sur Sydney. Honnêtement, il y a tellement d'événements de networking, les venues, les endroits, les hôtels ou les places où on fait des regroupements sont. Il y a beaucoup de compétitions également. Donc honnêtement, si vous pouvez nous souhaiter déjà pour 2026 d'être encore là, de continuer, d'avoir. Alors on sera là parce qu'on le sait déjà qu'il y a des pays qui veulent à tout prix avoir leur spécial en 2026. On va peut-être également faire des événements plus à thème, pas forcément focusés sur un pays, mais par exemple sur les écoles de commerce ou les universités, des choses comme ça, toujours au niveau européen. Mais honnêtement, souhaitez-nous d'être là en 2026 et on sera très contents.
Alors, on va revenir à du court terme, Xavier. Est-ce que vous pouvez nous donner les détails du prochain événement? C'est le dernier de l'année, je pense, hein?
Alors, exactement, c'est le dernier de l'année puisque au mois de novembre, on participe tous à la croisière avec les Européens qui est organisée par toutes les chambres de commerce européennes. Donc, on sera là-bas au mois de novembre. Au mois de décembre, on sait très bien, c'est très busy. Au mois de janvier, c'est les vacances. Donc, la dernière sera le 1er octobre. Ce sera une special Dutch Netherlands avec le soutien de Dutchling, la chambre de commerce néerlandaise, avec le consulat et l'ambassade des Pays-Bas.
Alors, Xavier, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? On doit s'inscrire? On vient comme cela? Ou est-ce qu'on peut trouver le moyen de s'annoncer, entre guillemets?
Alors, pareil, parce qu'on ne veut pas passer beaucoup de temps en tant qu'organisateur. On a juste une page sur LinkedIn. Donc, vous tapez European Aussie Drinks. Tout est sur notre page LinkedIn. Vous la suivez et on crée un événement chaque mois. Donc, pour la prochaine fois, vous enregistrez tout simplement à l'événement European Aussie Drinks le 1er octobre spécial Dutch. Et comme ça, vous serez connecté à nous et on vous attend le 1er octobre au Sofitel Sydney Networks à partir de 5h30, 6h du soir.
Merci Xavier, bravo pour cette initiative.
Merci beaucoup SBS et à bientôt.
Jamais je n'oublierai la couleur de ton île, le bleu vert du lagon immobile, les routes des vallées dans les matins d'avril, l'air est doux quand on est en exil.
C'était la dernière chanson de Jeanne Chéral, elle s'appelle Rodrigue et elle vient de sortir. Pour la première fois en Australie, rejoignez le cirque visuel de Murmure, c'est une composition sonore, acrobatique et multisensorielle. Nous avons rencontré l'artiste Camille Corneille et la directrice artistique Anne van der Steen. Elle est la fondatrice de la compagnie belge Grenzgeval et ensemble, ils présentent Murmure.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Il y a le spectacle Murmure qui arrive en Australie, qui va faire sa première. Alors Murmure, c'est un spectacle belge du 1er au 8 octobre et nous avons l'honneur d'être en ligne avec Camille Corneille et Hanne van der Steen qui justement travaillent sur Murmure. Camille, vous êtes un performeur dans le spectacle et Hanne, vous êtes la directrice artistique, c'est bien ça?
Oui.
Oui, c'est bien.
Eh bien bonjour. Salut. À tous les deux, merci d'être en ligne avec
bonjour.
Nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Murmure comme spectacle?
Murmure, c'est une symphonie acrobatique à la frontière du cirque, de la musique et du théâtre. Et Camille, hein, et l'acrobate, il créait un univers rempli de son. Et il est au centre d'une petite piste, hein, circulaire, et il bouge avec des enceintes au sol, mais aussi dans l'air. Et il compose en effet un monde sonore qui nous totalement entouré ou enveloppé. Et il y a aussi un son sac à dos très très spéciaux. Je pense, Camille, oui, c'est drôle. C'est aussi surprenant et parfois un peu magique. Ce n'est pas un spectacle qui en regarde de loin. C'est vraiment une expérience qui vous entoure complètement. C'est sensoriel, mais aussi spectaculaire, poétique et plein de fantaisie. Je pense que ça, c'est important aussi.
Et Hanne, comment vous avez eu l'idée de spectacle? Comment vous est venue l'idée, la création?
Bah, c'est une co-création avec iPhone. Ce n'est pas iPhone comme les téléphones, mais c'est une organisation qui est spécialisée dans l'art de bruit et d'écoute. Et dès le début, on voulait créer une composition sonore, mais avec le corps. Et franchement, c'était plus facile à imaginer qu'à faire, hein, Camille.
Oui, c'est ça.
C'était un vrai défi, je pense. Parce qu'on ne voulait pas des sons tout faits. C'est Sten, hein, de iPhone qui a capté tous les sons dehors, en studio, pendant nos résidences. Alors, si vous venez voir le spectacle, écoutez bien parce que chaque son vient du monde réel. Et on rêvait aussi que le son soit presque physique, qu'on puisse le sentir et qu'il voyage sur les dos du public. Et alors, c'est iPhone qui a développé tout. Ils ont conçu des enceintes portables très, très spéciales. Et puis, on a commencé à travailler avec tout ça de façon acrobatique. On cherchait les bons mouvements pour faire bouger le son et le bon son pour le mouvement. C'était vraiment compliqué, en effet. Et on a avec aussi des très grandes enceintes qui bougent dans tous les sons. Et Camille, une fois, il a même pris une enceinte sur la tête. Il a beaucoup répété, hein, Camille.
Vous allez bien, Camille? Vous n'êtes pas fait trop mal?
Non, c'était un super process très amusant aussi. On a exploré des sons puissants et essayé de déplacer le son et de se laisser déplacer par le son. Je vais bouger sur le son qu'on crée ensemble. C'est un très cool process.
Et vous avez parlé du public. Est-ce que c'est un public adulte ou est-ce que c'est un public enfant?
Ben, c'est vraiment pour jeune public. Ben, nous disions toujours c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour des adultes. Il y a les adultes et les enfants ensemble pour le regarder. Parce que Murmure, c'est physique et c'est aussi plein de son et super immersif. On pense que c'est génial ce que le son peut faire imaginer tellement de choses. Et ça, on pense c'est incroyable à partager parce qu'à chaque fois, les enfants et les adultes, ils plongent complètement dans l'univers. Et après, les enfants continuent à imaginer, à créer leur propre monde. Je pense que on voit les enfants, ils écoutent autrement après. Et souvent, ils se mettent à sauter partout comme des petits acrobates. Et pour nous, ça, c'est la vraie magie aussi, je pense.
Et Camille, comment vous vous entraînez? C'est quoi une journée type pour vous en tant qu'artiste? Comment vous vous entraînez pour être sûr de ne plus vous prendre des enceintes sur la tête?
Je viens d'une famille de danseurs. J'ai étudié le cirque aux Pays-Bas. J'ai travaillé des disciplines aériennes. J'ai aussi un suivi de formation en théâtre aussi.
Beaucoup, 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 hein, Camille.
Beaucoup.
Refait comme ça.
Refait, beaucoup refait ça.
Et Hannes, c'est quelque chose que vous faites souvent de mêler le théâtre et le cirque?
Oui, toujours. Grenzgewald, c'est moi et Malou Mertens. On fait toujours des spectacles qui sont dans la frontière de théâtre, du cirque, du art sonore. Je pense que c'est très, très intéressant d'être dans le bord de toutes les disciplines. On essaye de faire
Mais c'est...
qui sont vraiment sensoriels, sans langue, mais qui disent quelque chose sans parole, comme ça. Mais beaucoup de paroles, de mouvements, de cirque, du théâtre, oui.
C'est aussi un spectacle où le cirque devient un outil théâtral
pour exprimer, pour communiquer, pour guider le spectateur à travers l'histoire qu'on raconte. Ces disciplines sont complètement liées.
Et là, vous passez 8 jours en Australie et où est-ce que le spectacle Murmure vous emmène ensuite?
Les Pays-Bas. On revient pour les Pays-Bas. Et après, le Canada peut-être, je pense.
Oh, je crois. J'espère
Oui.
ça.
Magnifique, oui. Mais on a joué le spectacle partout aussi, en Chine, en Hong Kong, les États, les Royaumes-Unis, parce que un peu partout en Europe.
Eh bien, le spectacle Murmure, c'est ici en Australie du 1er au 8 octobre 2025. Je vais mettre avec le podcast un petit lien avec toutes les informations pour venir voir votre spectacle. Merci beaucoup,
Oh,
Fabien, et merci beaucoup, Camille.
super, merci beaucoup.
Ben, on pense que c'est vraiment génial d'avoir la première Australienne de Murmure au Sydney Opera House. En secret, je rêvais déjà de ça quand j'étais enfant, vraiment. Mais je ne pensais pas que ça allait vraiment arriver un jour. Voilà, alors venez voir, venez écouter. Et après le spectacle, venez vous dire bonjour peut-être. Ça sera
Oui.
génial.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
J'ai encore pensé à toi la veille. Baby, tu me montres, reviens, on essaye. J'ai encore, reviens, on essaye. J'ai encore pensé à toi la veille. On a des choses à vivre à deux.
Le chanteur Opinard sur les ondes de radio SBS. Allez, place à la deuxième partie de l'histoire cachée de l'Australie avec cet épisode consacré au platypus, à l'ornithorynque en français. Comment cet animal a permis à l'Australie de renforcer ses alliances diplomatiques? Partie 2, c'est parti.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va parler de diplomatie, en tout cas de la forme que parfois la diplomatie peut prendre. On appelle ça le soft power. C'est par exemple ce que font les États-Unis à travers Hollywood et les films qu'ils diffusent à travers le monde entier. Il y a aussi une autre forme de soft power qui consiste à mettre en avant les animaux typiques de certains pays. La Chine pratique ainsi encore très régulièrement ce qu'on appelle la diplomatie du panda. Et vous vous en doutez, l'Australie, avec une faune aussi incroyable et surtout aussi unique que celle qu'on trouve en Australie, s'y est également adonnée par le passé. C'est ce qu'on a appelé la diplomatie de l'ornithorynque. Alors, comme d'habitude, pour en parler avec nous, nous retrouvons l'historien Romain Fati. Oh, bonjour Romain.
Bonjour Grégory et bonjour chers auditeurs.
Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale et il y a un Européen qui aimerait beaucoup avoir un ornithorynque. On se demande pourquoi d'ailleurs, ça n'est pas précisé. C'est le premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill. Et l'Australie décide d'accepter et de lancer une expédition visant à ramener vivant un ornithorynque jusqu'au premier ministre britannique à Londres. Alors la première question, sachant qu'à ce moment-là, les relations entre les deux pays ne sont pas vraiment au beau fixe, qu'espère tirer l'Australie de ce geste à l'égard du Premier ministre britannique? Et puis ensuite, eh bien, on va voir effectivement comment tout ça s'est déroulé. Mais d'abord, qu'attend l'Australie de ce geste?
Je vais répondre à votre première question, parce que vous avez dit, et très justement, on ne sait pas pourquoi il était intéressé. Ben, Winston Churchill est intéressé parce que c'est un grand aristocrate, c'est un ancien combattant, hein, c'est quelqu'un, c'est un impérialiste surtout. C'est quelqu'un qui s'est battu en Inde, qui s'est battu au Soudan, qui a été correspondant de guerre, pardon, à Cuba, puis après dans la Seconde Guerre des Boers. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, avec beaucoup d'argent, beaucoup de statut social, et comme tout bon aristocrate, il aime bien collectionner. Lui, en l'occurrence, une de ses passions, à part la boisson, on le sait, ce sont les animaux exotiques. Encore une fois, parce que c'est un signe de pouvoir. Je veux dire, avoir des lions dans les années 40, c'est pas la même chose que d'avoir accès à un lion aujourd'hui. Bon, ça reste quand même extraordinaire, mais il y a une difficulté supplémentaire dans ces années-là. Et c'est un collectionneur d'animaux exotiques. On lui a offert au cours de sa carrière politique de nombreux animaux. Certains sont retrouvés au zoo à Londres. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a un intérêt pour ça parce que ça correspond non seulement à sa classe, à son rang, à sa conception de l'empire également, et puis parce que très clairement ça l'amuse et qu'il aime bien les animaux. Donc ça c'est la première réponse. La seconde question que vous m'avez posée par rapport à l'Australie en 43. Oui. On sait bien que les Australiens sont des Britanniques qui ont été déportés. Puis après, vous avez la Fédération de l'Australie en 1901. Donc l'Australie a son propre Parlement fédéral. Mais pendant assez longtemps, la sécurité australienne est assurée par la Grande-Bretagne. Ces décisions sont prises à Londres, au cabinet de guerre, et l'Australie est défendue par les Britanniques. Ça, ils les aident pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez ce qu'on appelle la stratégie de Singapour, à savoir que en cas de guerre, et donc on y est, la Grande-Bretagne, via la Royal Navy, devrait assurer la défense de l'Australie. Sauf que la déferlante impériale japonaise, qui pouvait peut-être se prédire, mais pas s'imaginer en termes d'échelle, est accélérée et se propage à une vitesse dans l'Asie-Pacifique que le commandement britannique n'aurait su envisager. Et par ailleurs, 41, 42, vous avez aussi, Hitler, vous avez aussi Mussolini et puis Staline avant qui change de côté. Donc les Anglais se disent il faut qu'on rapatrie notre flotte de Singapour puisque la protection de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, d'autres dominions se fait depuis ce point fort qu'est Singapour. Singapour est prise par les Japonais, elle chute, les Australiens se retrouvent tout nus, complètement nus, quasiment sans défense, avec une grande partie de leur armée qui est en Europe ou au Moyen-Orient, et ils ont la peur de l'invasion japonaise. Alors, ce qu'on appelle le call to America, ils se tournent vers l'Amérique, ce qui explique beaucoup la relation aujourd'hui qu'on peut observer, pour que les Américains viennent utiliser l'Australie comme base arrière. Grosso modo, vous avez à peu près 2 millions d'Américains qui sont stationnés là pendant quelques années. Et là où on retrouve notre ornithorynque, c'est essayer de rétablir des relations de bonne volonté. Vous avez Winston Churchill qui annonce au ministre australien des Affaires étrangères, à l'époque le docteur Evatt, qui plus tard sera partie des personnes qui ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU. Bref, Evatt, Churchill lui demande un ornithorynque. Ça lui plairait. Il en a envie plusieurs d'ailleurs. Et alors, on est déjà à une époque où les conservationnistes, en fait, essaient quand même de minimiser la destruction des espèces dites en danger, parce que la colonisation n'a pas aidé avec les renards, etc., tous les prédateurs que nous avons, enfin que les Blancs ont importés dans ce pays. Et Evatt dit, ok, on va lancer une expédition. On va essayer d'aller chercher un ornithorynque pour le premier ministre britannique, en espérant s'attirer quelques faveurs. Et puis, si l'histoire se passe bien, c'est quelque chose qui sera apprécié des Australiens, si ça se passe bien.
Et c'est loin d'être gagné d'avance, puisque, on l'a dit tout à l'heure, les ornithorynques sont quand même des animaux particulièrement fragiles. Et là, on envisage d'en faire traverser un toute la planète en bateau, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est complètement fou, en fait, comme projet.
Oui, ça paraît ahurissant. Et en fait, moi, je me suis posé une question, j'ai pas réussi à trouver la réponse. 43, il y a les avions. Pourquoi aller s'embêter à faire voyager un ornithorynque sur 45 jours, je crois, 50 jours, donc un mois et demi par bateau, alors que finalement, en à peu près 48 à 72 heures, il aurait pu rejoindre la Grande-Bretagne. Alors, j'ai pas de réponse. Elle est peut-être dans l'installation, en fait, qui était nécessaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en 43. Et 43, on sait pas là où ça va tourner. On sait pas encore ce qui va se passer. Les Américains s'en prennent plein la figure avec les Japonais dans le Pacifique. Donc, vous imaginez, il faut que le bateau quitte une zone qui est partiellement sous contrôle japonais pour aller traverser l'océan, donc une partie du Pacifique, une partie de l'océan Indien, passer le canal de Suez, effectivement sous surveillance britannique, mais la Méditerranée est infestée de sous-marins allemands, enfin nazis, et puis fascistes chez les Italiens, passer par l'Atlantique, lui aussi infesté de sous-marins britanniques, sous-marins allemands. Donc, on fait courir quand même beaucoup de risques à ces hommes qui montent à bord du bateau pour escorter cet ornithorynque. Et alors, pour que justement ce passage se passe dans les meilleures conditions, on lui crée une sorte de vivarium géant pour qu'il puisse dormir, nager. C'est un animal qui vit en grande partie dans l'eau, donc il faut de l'eau fraîche. Et puis des réserves de nourriture abondantes. Sauf que quand on collecte, alors je crois qu'ils avaient amassé plus de 50 000 vers pour nourrir le petit ornithorynque avec quelques œufs également. Le problème, c'est que les vers meurent au cours de route. Donc en fait, en termes logistiques, c'est très très compliqué de déplacer un animal qui pourtant est petit, qui a des exigences alimentaires compliquées et un métabolisme et un style de vie très difficile à reproduire. Un lion, tant qu'il est à peu près chaud et vous lui donnez de la viande, a priori, ça passe. J'exagère. Mais alors, un ornithorynque, en réalité, reproduire ces conditions de vie, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Un peu comme les poissons exotiques, par exemple, ou l'osmose de l'eau, etc., la chaleur. Tout ça demande énormément d'attention. Et vous avez un monsieur dont c'est le travail d'accompagner cet ornithorynque. Et il prend des notes tous les jours sur ce qui se passe, ce que l'ornithorynque a mangé, la température de l'eau, de l'air, etc.
Et malheureusement, malgré tous ces moyens mis en œuvre pour s'assurer d'une bonne traversée, ce petit ornithorynque qui a été baptisé Winston est finalement retrouvé mort et on est seulement à quelques jours avant l'arrivée au port de Liverpool. Et ce décès, encore jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas précisément ce qu'il a déclenché.
Alors, généralement, c'est toujours l'option la plus simple, c'est-à-dire que, en fait, sortir un ornithorynque et le faire traverser le monde pendant 45 jours dans un bateau qui va changer de climat à plusieurs reprises. A priori, hein, je ne suis pas vétérinaire, mais ça ne semble pas une bonne idée. Alors, ce que les Britanniques au début, ça a été un peu caché, cette affaire, parce que si ça avait été un succès, évidemment que ça aurait été médiatisé, ne serait-ce que parce que voilà, les relations australo-britanniques, faire traverser un animal qui avait été encore peu reçu en Europe, etc. Là, en l'occurrence, c'est un échec. Donc, c'est un échec qu'on cache, puisque on a permis à quelqu'un de faire sortir un animal qui théoriquement ne doit pas sortir, que c'est un peu une faveur gouvernementale, donc ça a tout de suite pas, ça sent pas très bon. Et les Britanniques font courir le bruit que l'ornithorynque aurait été traumatisé par les bombardements, l'explosion d'un sous-marin allemand. Alors voilà, vous avez tout un tas de théories sur le pauvre ornithorynque qui serait mort de choc traumatique. Plus récemment, vous avez eu des étudiants de l'Université de Sydney qui ont eu accès à un certain nombre de documents qui sont conservés ici en Australie, dont le petit carnet justement de la personne qui était en charge de surveiller l'ornithorynque. Et en fait, on voit très clairement que les températures d'eau sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaudes. Quand vous passez le canal de Suez, c'est-à-dire que vous êtes sur un endroit qui est très chaud, hein, vous êtes bordé par l'Égypte d'un côté, l'eau du réservoir dans lequel était, enfin, une espèce d'aquarium géant qui avait été construit pour l'ornithorynque, a atteint, il semblerait, 27 degrés. Alors, des ornithorynques, pour vous donner une autre idée, sa vie, en Australie, vous en avez dans les Alpes australiennes, vous en avez pas loin de Canberra, hein, d'ailleurs, ce qui est un endroit effectivement chaud l'été, mais avec de l'eau froide qui vient des Alpes australiennes. Donc, l'hiver, il fait très froid, et l'été, l'eau demeure plutôt fraîche. 27 degrés, là, en fait, ils ont cuit l'ornithorynque, hein, tout simplement.
Ouais.
Donc, je ne peux pas vous le garantir, mais ayant eu des poissons quand j'étais jeune, ce qui n'a peu de rapport avec un ornithorynque, s'ils ne sont pas à la bonne température, généralement, ils ne survivent pas, ils ne s'adaptent pas. Un peu comme nous, hein, d'ailleurs. Sauf que nous, l'amplitude de température qu'on peut supporter, suivant si on est habillé ou pas, comment on s'adapte, elle peut varier de bien nombreuses dizaines de degrés. C'est pas le cas de l'eau pour un ornithorynque. Donc, voilà, je mettrais fort à parier qu'en fait, ce pauvre animal est mort d'un choc thermique prolongé.
SBS SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez la retrouver sur le site internet SBS French ainsi que sur toutes les plateformes. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un très beau dimanche. Au revoir, messieurs, dames.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.